Dans quelques secondes, vous allez écouter votre épisode du jour. Alors si vous aimez Dans les yeux d'Olivier en version podcast, dites-le nous en mettant des étoiles ou en écrivant un commentaire sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci. On imagine souvent que notre vie est toute tracée, mais un événement peut venir bouleverser le cours des choses. Un événement qui transforme une existence paisible en un véritable chaos. J'ai voulu partir à la rencontre de rescapés, des hommes et des femmes qui ont frôlé la mort, qui ont été coupés des autres et qui ont réussi à revenir. Comment se sont-ils battus pour rester en vie ? Où sont-ils allés chercher cette force en eux ? Et surtout, comment ont-ils retrouvé leur place dans le monde des vivants ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Médéric. Sa vie a basculé au milieu de l'océan, face à des pirates qui lui ont fait vivre un véritable cauchemar. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus.
Médéric, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous ?
Ça va, ça va.
Merci de m'accueillir dans votre Bretagne, votre belle Bretagne.
Plaisir.
À 41 ans, Médéric est un homme particulièrement fragile. 9 ans après avoir été pris en otage, il reste encore profondément marqué au point de ne pas parvenir à renouer avec le fil de sa vie. Au printemps 2008, Médéric était maître d'hôtel sur le Ponant, un bateau de croisière dont s'étaient emparés des pirates somaliens. Pendant 8 jours, l'événement avait sollicité toute l'attention des médias et même de l'Élysée.
Ce sont les premières images du voilier depuis qu'il est aux mains des pirates. Des images prises il y a quelques heures par l'hélicoptère militaire français. On y voit notamment 2 embarcations utilisées par les pirates et également la silhouette d'au moins 3 individus, dont 2 armés.
On est en liaison permanente avec l'armateur et ce que nous privilégions, c'est la protection de la vie des personnes qui sont à bord.
Aujourd'hui encore, à la suite de cette affaire, Médéric reste très choqué.
Ils m'ont pris une partie de ma vie. Est-ce que j'allais rentrer sain et sauf ? Est-ce que j'allais rentrer les pieds, comme on dit, devant, hein ? Et puis en même temps, on essaye de se barricader, même si c'est pas évident. Je pensais beaucoup à ma famille, aux amis. Et puis en même temps, je me disais, essaye de surmonter tout ça, d'avancer. Et bon, c'était pas facile tous les jours.
Médéric est maître d'hôtel depuis 1992. En 2008, il embarque sur ce voilier de luxe de près de 90 mètres qui accueille 60 passagers et 30 membres d'équipage. Il est habitué aux missions sur l'eau, mais c'est la première fois qu'il embarque pour ce parcours paradisiaque dans les Seychelles.
On a 3 croisières. D'à peu près 10 jours, 11 jours. Et puis, donc, la dernière croisière, on débarque les passagers de manière à faire cette traversée d'environ 10 jours pour rejoindre le Yémen en passant par le golfe d'Aden.
D'accord. Donc, vous devez rejoindre le Yémen pour aller chercher d'autres clients,
tout à fait. Du coup, on remet tout à neuf.
Alors, le commandant, au bout de 2 jours, réunit tout le monde sur le pont pour vous annoncer quelque chose.
Oui, il nous prévient qu'on va traverser donc une zone dangereuse. Donc on entend le mot pirate, enfin piraterie plus exactement, et c'est vrai que sur l'instant, on en rigole parce qu'on ne pense pas que ce soit sérieux. La piraterie, on n'a pas vu ça depuis des années. Mmh. Les matelots, le chef mécanicien, toutes ces personnes qui sont déjà en marins connaissent et savent qu'en effet on passe cette zone. Pour nous, les personnes qui sont au service, nous ne savons pas du tout cette histoire et ne connaissons pas du tout cela.
Ce qui veut dire très clairement que lorsque vous signez votre contrat pour vous engager sur ce bateau, le Ponant, nulle part il n'est stipulé
non.
que vous allez devoir affronter ce type de situation.
Non.
On sait qu'il y a eu déjà des attaques dans cette zone, et puis on sait que donc, les pirates sont somaliens, qui sont généralement armés de fusils d'assaut, de kalachnikov. Est-ce qu'on vous donne tous ces détails ?
On nous donne tous ces détails, et on nous donne surtout l'information qu'ils passent par un bateau-mer. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, ils se prennent un petit bateau de pêche,
ouais,
qu'ils appellent le bateau-mer, mmh, et dont ils se servent pour voir tous les, avec les radars, tous les bateaux qu'ils ont aux alentours.
Pour repérer, en fait.
Pour repérer une éventuelle cible qui puisse attaquer.
En fait, y a-t-il des armes sur le Ponant ?
Il n'y en a pas, pour des raisons de sécurité, pour ouais, éviter qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler une rébellion ou quelqu'un qui pète un câble. Donc on parle plutôt de lancer un incendie pour pouvoir se défendre.
Pour l'armateur, passer par cette zone dangereuse est un chemin plus rapide et surtout moins coûteux, car le bateau évite de contourner toute l'Afrique pour rejoindre le Yémen. Dans les jours qui précèdent l'arrivée des pirates, tout le monde à bord est sous pression. L'équipage doit tout faire pour éviter d'attirer l'attention et doit obéir à une routine stricte, presque militaire, de jour comme de nuit.
Alors le jour, c'est plus facile parce que évidemment tout le monde est quand même affairé à faire ce qu'il a à faire. Donc on est tous un peu plus à regarder, etc. De nuit, évidemment, c'est différent. Il faut calfeutrer et sécuriser le bateau au maximum, c'est-à-dire bâcher toutes les fenêtres avec des sacs poubelles, via du scotch, etc. Aucune lumière doit être apparente d'extérieur. On est dans l'angoisse, on est dans le stress, on fait ce qu'on nous demande. Mais on y va reculons quand même, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça.
Mmh. Est-ce qu'on avait donné des instructions de sécurité spécifiques aux femmes ?
Oui. Au moment où le commandant nous avait réunis, il avait précisé que les femmes seraient protégées en fond de cale, mmh, pour éviter justement une séquestration, un viol.
Vous aviez peur, vous ?
J'avais peur d'un éventuel assaut.
Vous êtes quelqu'un d'angoissé un peu ?
Oui.
Hein ?
Oui.
Donc... C'est quelque chose qui vous a mis une pression supplémentaire, ça ?
On peut dire, ouais, on peut dire, ouais.
Uh-huh. Le commandant, vous avez donc indiqué que vous ne pouviez vous défendre qu'avec les lances à eau.
Oui, les lances à incendie.
Ouais, les lances à incendie contre des fusils d'assaut ou des kalachnikovs éventuels.
Ça ne fait pas le poids.
Ouais.
Pendant une semaine, rien ne se passe. Aucune alerte, aucune attaque. Proche de l'arrivée, à deux jours de route de ce fameux port du Yémen, le commandant décide même d'organiser une petite fête pour célébrer le travail accompli. C'est à ce moment-là que tout bascule.
On a deux collègues, des femmes, qui voient au loin, un peu comme les dauphins qui sautent. Et puis, on voit que ça continue à venir vers nous. Et c'est là où l'alerte est donnée, puisque on s'aperçoit en fait que ce sont des zodiacs qui viennent dans notre direction. On voit un petit zodiac là, voilà, ça y ressemble un peu. Oui. Il est sur le milieu.
D'accord, donc vous les voyez, vous avez le temps de les voir arriver.
Là, on a compris que voilà, qu'ils venaient vers nous. Donc chacun a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire les filles ont partir se mettre à l'abri, comme convenu. Pour moi, je suis parti prendre la lance à incendie qui était à portée de main pour essayer de les repousser. Et quand on les a vus se rapprocher, ils ont commencé à canarder pratiquement au moment où j'ai commencé à prendre la lance à incendie. Et là, j'ai un de mes collègues qui est arrivé et qui m'a mis à l'abri.
D'accord.
Il m'a dit « Planque-toi ».
Lorsque les pirates font irruption, ils sont combien ?
Ils sont 11.
11 pirates ?
Et au moment où ils ont ouvert la porte centrale, là, j'ai vu la Kalachnikov prête à tirer. Et puis, ils nous ont crié dessus. Et là, donc, le chef des pirates est arrivé et puis il a demandé au commandant de faire réunir l'équipage.
On est 8 ans après, Médéric, et lorsque vous regardez un zodiac sur l'eau comme ça, même qui est à mouiller avec personne dessus, c'est quelque chose qui vous...
Ce que je les imagine, on se dit qu'à ce moment-là, on peut perdre la vie parce qu'une balle peut très vite partir.
Uh-huh.
qu'on a même eu peur à un moment donné pour le commandant. Le chef a pris une arme, un petit calibre, et l'a tendue dans sa direction. Donc là, on s'est un peu... On s'est un peu crispé parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il voulait. Donc il a pris cette arme et puis il l'a mise dans la direction de son oreille. Et en fait, elle était à ça, de son oreille. Et il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait. Et donc il a tiré en direction de l'océan, mais quand même.
Il a tiré à proximité,
De l'oreille du commandant.
Et ça, c'est un geste qui a dû tous vous impressionner en plus.
En plus, oui, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'ils sont là pour nous tuer? Est-ce qu'ils sont là pour juste récupérer des choses et partir? On ne savait pas du tout de quoi il en retournait.
Les pirates prennent l'équipage en otage et exigent une rançon de 2 millions d'euros à l'armateur. À Paris, les autorités mettent en place une cellule de crise. L'événement devient une affaire d'État. Entre-temps, le voilier a repris la route vers les côtes somaliennes. À bord, les pirates n'hésitent pas à se prendre en photo, habillés pour certains des uniformes de l'équipage du Ponant. Ils posent armes à la main. Pour l'équipage, les jours se succèdent dans une tension permanente. Tout le monde est surveillé jour et nuit par ces hommes armés. Médéric est terrifié par le comportement souvent imprévisible des pirates. Comme le jour de l'attaque, où un hélicoptère de l'armée française était venu survoler le Ponant.
Là, en fait, un des pirates qui était le détenant du lance-roquettes, l'armée et l'a dirigé, voulait le diriger dans la direction de l'hélicoptère, pensant qu'il était en train de se préparer à donner l'assaut. Et finalement, l'hélicoptère est parti, le Somalien a reposé son arme, mais il a voulu retirer la roquette et au final, elle s'est coincée. Et ce qui fait que pour pouvoir la retirer, il a préféré taper sur le sol avec. Et le moindre geste pouvait tous nous faire exploser. Et à un moment donné, on s'est retrouvé dans ma direction. Et là, cette roquette qui pouvait partir à n'importe quel moment, j'avais pas le temps de l'esquiver puisqu'elle était juste vraiment dans ma lignée. Et en plus de ça, la deuxième chose aussi qui est arrivée plus tard, le Somalien qui nous gardait s'est endormi et son arme lui a glissé des mains. Le doigt a certainement effleuré la gâchette et du coup c'est parti dans tous les sens. Donc bris de vitre, tout le monde se cache à terre, j'étais juste dans la lancée encore une fois et malgré tout on a réussi quand même à n'avoir aucun blessé, juste très très léger le médecin du bord qui a eu une petite éraflure au niveau de la cuisse gauche, mais interne, mais sinon par chance personne d'autre n'a été blessé.
Vous n'avez pas oublié ça?
On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier.
Huit jours après le début de la prise d'otage, le gouvernement français parvient à un accord avec les Somaliens qui finissent par libérer tout le monde. Le GIGN et la marine interviennent et parviennent à capturer 6 pirates pendant leur fuite. Médéric, lui, est sain et sauf. Mais une fois rentré, le retour à la vie s'avère totalement impossible. Aucune prise en charge psychologique n'est envisagée. Pourtant, les spécialistes s'accordent à dire qu'elle doit être immédiate après une prise d'otage. À l'époque, sa mère Maryse tente bien de le soutenir, mais ne comprend pas totalement l'ampleur de son traumatisme.
Du jour au lendemain, on s'est retrouvé seul.
Et vous vous êtes retrouvé face à vous-même, là?
Face à moi-même, du fait que ma mère a dû recommencer à reprendre son travail. Je me retrouvais tout seul, à ruminer, à me demander si j'étais bien ici, si c'était bien moi. Pour oublier, j'ai commencé à boire. Et il m'est arrivé aussi de rester des heures entières sous la douche. Parce que je voulais aussi me laver de toute cette histoire. J'avais ce sentiment d'être sale, de pas me reconnaître, ouais. De pas voir que c'était moi qui existais. Et puis un soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il faut que j'essaie de rebondir. On a été contacté par un bureau à Quimper qui nous avait dit venez avec vos grands-parents, votre maman, que l'on discute de tout ça et qu'on puisse voir avec vous quels sont les moyens que nous pourrons mettre en œuvre pour essayer de vous aider psychologiquement.
Ils nous ont écoutés et ils ne nous ont jamais recontactés.
Une fois seulement.
Ouais.
Et on n'a jamais eu de retour après.
Jamais.
Jamais.
Débrouille-toi. T'es grande, débrouille-toi.
Maryse a pris la mesure du traumatisme de son fils 2 mois après sa libération, le jour où Médéric a dû retourner sur le Ponant pour y récupérer ses affaires.
Plus on s'approchait du bateau, soyez Médéric, c'était... voilà, il était figé, il était contracté, il était inquiet, c'est comme si tout lui revenait. Mais je sais qu'après, on s'est retrouvés sur le bateau, il m'a tout montré. Tout, la cale où étaient enfermées les filles, puis après où ils étaient tous condensés, il était là, il tremblait comme ça. Bah, c'était un moment.
D'ailleurs, vous avez échangé beaucoup ensemble les jours et les semaines et les mois qui ont suivi cette prise d'otage.
Ah oui,
et sa libération.
Il m'a tout raconté. Oui. Les filles là, qui étaient dans la cale, qui faisaient noir, qui ne savaient pas à manger, pas à boire, parce qu'elles étaient cachées, parce que les pirates ne savaient pas au début qu'elles étaient là, qu'elles pissaient dans une bouteille, elles ne buvaient que du vin parce qu'il n'y avait que ça. C'était l'horreur. Ils ont vraiment vécu quelque chose d'horrible. Hein. C'est dingue parce que encore une fois, il y a quelque chose qui est cassé. Je pense que c'est que cassé. Je pense pas que ce soit mort, mais il y a quelque chose de cassé vraiment.
Comme si une partie de lui était restée sur le Ponant, en fait, en vous écoutant.
C'est toujours là. Oui. Je le sens pas comme vivant.
Vivant.
Vivant pleinement.
Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il puisse entamer une reconstruction ?
Avant tout. De toute façon, c'est d'être connu, quoi. Que le procès soit fini, qu'il ait une reconnaissance et que l'équipe du Ponant, là, s'assume, quoi. Disent haut et fort, ben oui, c'est de notre faute. Ils n'ont même pas dit ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est impossible, une reconstruction, si l'autre ne dit pas que c'est sa faute. C'est impossible, c'est un point de départ, ça, de reconstruction. Mais c'est que un point de départ. Parce qu'il existe, mon fils, hein. Il est vivant, il a envie de vivre comme tout le monde, d'avoir les mêmes droits que les autres.
Selon Médéric, en effet, l'armateur qui connaissait les risques n'a jamais reconnu ses torts. Un procès s'est pourtant tenu 3 ans après les faits, mais avec pour seul objet de juger les 6 pirates somaliens qui avaient été capturés. Entre-temps, Médéric a été recontacté pour travailler à nouveau sur le Ponant, chose évidemment impossible pour cet homme désormais brisé et qui tente difficilement de reprendre sa vie en main.
J'ai pas vite retravaillé, j'ai au contraire voulu prendre du temps pour moi, histoire de me retrouver et de me ressourcer.
Ça a duré combien de temps avant que vous repreniez une mission ?
Un bon 5 mois.
5 mois.
5-6 mois, facile, ouais.
Ces 5-6 mois, vous les analysez comment ?
Comme un vide, une absence de moi-même. Essayer de me retrouver, comme je disais, mais avec difficulté. Mm-hmm. Et puis essayer d'oublier, mais ce n'est pas possible. J'ai travaillé pour essayer de me reconstruire, puis pour montrer aussi que la vie continue. Maintenant, les établissements, les endroits où j'ai travaillé, se sont à chaque fois soldés pratiquement sur des échecs parce que je continuais à penser à cette prise d'otage. Lorsque je perdais confiance en moi, je me disais que j'allais pas y arriver. On a l'impression que je vais bien comme ça parce que j'essaye de montrer une autre image. Mais intérieurement, j'ai toujours un peu ce traumatisme.
ce procès, en fait, il a débouché sur quoi ?
Le procès a débouché sur la condamnation de quatre de ces pirates.
D'accord. Deux sur les six qui avaient été appréhendés.
Exactement. Mmh. Sur les, il y en a deux qui ont été, qui n'ont pas été reconnus coupables puisque faute de preuves et faute de reconnaissance faciale.
Oui.
Mais pour ma part, malgré les avocats, en tant que victime, je ne suis pas encore reconnu et l'indemnisation, pour ma part, n'est toujours pas acquise.
Cela veut dire quoi dans votre esprit que...
Que j'ai le sentiment en fait que je suis un oublié. Et c'est le fait de ne pas être reconnu victime et qui plus est d'avoir cette indemnisation alors que les Somaliens ont eu leur indemnisation.
Vous parlez des deux Somaliens qui ont été reconnus
entre
innocents
autres.
Et qui ont été indemnisés
entre
par rapport
autres.
À la détention qu'ils ont fait.
Tout à fait.
Il est sûr que c'est surprenant de voir... qu'eux ont été vite indemnisés, qu'à ce jour où nous parlons, vous n'avez rien eu.
Ah non. C'était un stop, à la... comme une interdiction d'avancer. Et pour pouvoir réparer ça, je ne sais pas de quelle manière ça peut se faire.
Mmh. Médéric est meurtri par ces 8 jours de séquestration, mais aussi par tout ce qui a suivi. Pour lui, comme pour le reste de l'équipage, une procédure est toujours en cours. Ils espèrent enfin être reconnus comme victimes. Aujourd'hui, Médéric reste dans l'attente de cette reconnaissance et cela contribue à le maintenir dans le passé. En le quittant, je comprends que le regard des autres et le jugement de la société sont essentiels pour se reconstruire, mais qu'ils peuvent aussi devenir un piège. Seul, c'est alors au plus profond de soi qu'il faut aller chercher les ressources nécessaires pour revenir à la vie. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Kevin Ousty. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.